Réplique, l'islam et l'Occident, avec Tarek Oubrou et Daniel Siboni. Après la chute du mur de Berlin, nous avons été nombreux à croire que l'ère des grands affrontements idéologiques était close, que la démocratie libérale avait vaincu l'un après l'autre ses grands rivaux, que l'individualisme triomphait sur les cinq continents et que l'humanité tout entière se reconnaissait dans les valeurs d'égalité et de liberté. Nous vivons, depuis le début du XXIe siècle, la fin de la fin de l'histoire. Il nous faut agir et réfléchir dans un monde, dans une France, marquée par des séparations bien plus intraitables que nous ne le pensions. La présence ostensible du salafisme est un symptôme nouveau et fulgurant, écrit Gilles Kepel dans Passion française, et si l'on en croit l'ancien président de SOS Racisme, Malek Bouti, ce qui caractérise les banlieues françaises, 10 ans après les émeutes urbaines qui ont suivi la mort par électrocution de 2 adolescents, Zied Bena et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, c'est l'émergence d'une génération radicale. Je voudrais, pour commencer, interroger Daniel Siboni, auteur entre autres de « Islam, phobie, culpabilité » et l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, sur le sens de cette radicalisation religieuse. Que nous dit-elle de l'islam, de la France, du monde dans lequel nous vivons, Tarek Oubrou ?
Le phénomène de la radicalité dans la tradition musulmane s'explique par plusieurs facteurs. Et des facteurs historiques qui s'enracinent dans l'histoire d'un islam qui est né en tant que religion, qui est devenu par la suite une civilisation. Donc, il est sorti de la logique d'une spiritualité à la logique de l'histoire de la civilisation. Donc, il est né avec la logique de l'État et de l'Empire. C'est dans cette épistémé que la théologie et le droit ont été forgés et formalisés. Et puis, il y a des facteurs contemporains. Après avoir subi l'invasion des croisades, puis l'invasion mongole, puis la colonisation séculière 19e, 20e siècle, cet empire s'est effrité, s'est fragmenté, et donc cette unité de la umma spirituelle qui se confondait avec la umma politique califale s'est complètement fragmentée. Donc voilà un petit peu la macroscopie de la description de l'état de cette religion. Bien sûr, je caricature, je simplifie, parce que l'émission ne permet pas d'entrer dans l'archéologie précise de cet effondrement d'une civilisation qui se répercute négativement sur le rapport au texte et à l'interprétation du texte. Et donc, le moment de vulnérabilité, de frustration ne permet pas toujours à la pensée musulmane de lire les textes sereinement à la lumière des problématiques posées par la modernité et par la postmodernité désormais dans laquelle nous vivons. Et puis, il y a des facteurs, je dirais, d'ignorance. Donc il y a une sécularisation qui a fait que les musulmans d'aujourd'hui n'ont plus cette culture de la complexité théologique, scolastique du Moyen-Âge, la complexité du droit, etc. Donc il y a une ignorance qui favorise ce type de radicalité. Et puis il y a l'identitaire. L'identitaire, la construction de l'identité qui convoque la religion pour l'affirmation. Donc je ne peux pas citer tous les facteurs tellement sont multiples pour décrire ce fait. Il n'est pas réductible uniquement à un génome quelconque coranique. C'est plus complexe que cela. Il y a le psychologique, il y a l'économique, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu.
Daniel Siboni.
Moi, je pense qu'on peut se permettre d'entrer dans la constitution même de cette identité, car aujourd'hui, chaque identité a son problème, c'est-à-dire a sa difficulté pour intégrer ce que j'appelle la faille existentielle, c'est-à-dire le fait que ça ne colle pas toujours. Et l'identité islamique m'a passionné, d'abord parce que j'ai vécu en pays musulman jusqu'à 13 ans.
Vous étiez au Maroc ?
Oui, je suis né à Marrakech. Ma première langue, c'est l'arabe. Ensuite, ma langue culturelle était la Bible. Et donc, le français est venu ensuite me sauver de cet entre-deux. Et donc, quand vous dites radicalisation, moi, je dirais émergence des racines. Dans radicalisation, j'entends radical, j'entends racine. Et il y a une quête des racines, et le Coran et la Sunna, l'identité, plutôt que la religion, vous me permettrez de carrément décaler les questions religieuses vers les questions identitaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je me rappelle, au Maroc, nous vivions des identités différentes. On ne discutait pas sur la volonté de Dieu et des choses comme ça. Donc, c'est une question identitaire. Et il me semble que l'islam s'est constitué d'une façon très intéressante à partir des deux autres identités, juives et chrétiennes, et contre elles. Et ces deux identités s'appellent les gens du livre. Et il a tout simplement posé que ces gens n'étaient pas dignes du message qu'ils avaient reçu. Donc il a élaboré, avec d'ailleurs une difficulté, c'est que, et contrairement au christianisme, il n'a pas innové. Il a été un rappel. Donc il s'est fondé un petit peu sur, je dirais, il a fondé sa plénitude sur le creux des autres, sur leur échec. Le résultat, c'est que c'est une texture identitaire, je dirais, totale, qui ne convient pas trop aujourd'hui aux musulmans eux-mêmes, en tout cas à une bonne partie d'entre eux qui veulent vivre, qui veulent sortir de ce carcan. Mais comme elle ne convient pas davantage aux Européens, ça complique les choses, parce que si le texte de vos racines ne convient pas à ceux que ce texte même désigne comme des ennemis, alors vous êtes toujours menacé de traîtrise. En revanche, si on observe la réalité, on voit qu'elle est beaucoup moins dramatique qu'on ne l'imagine. Vous disiez, nous pensions que, c'est peut-être les gens qui font les idées, mais moi je n'ai jamais pensé que l'humanité allait vers une espèce d'accord sur les valeurs, etc. Donc les musulmans s'en tirent plutôt bien de cette texture identitaire totale, dont je vous montrerai en quel sens elle est totale. Comment ils s'en tirent ? Ben, en piochant quelques éléments et en se faisant chacun son islam. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des musulmans qui ne sont absolument pas radicaux au sens où ils ne vont pas chercher dans les racines. Mais c'est aussi comme ça que des gens qui veulent chercher les racines et qui veulent une assise solide trouvent largement dans la texture coranique, qui n'est pas un génome, qui est une texture qui s'est transmise à l'identique et qui est toujours actuelle. Juste un mot sur la critique qu'on lance en général à cette approche que j'esquisse. On dit que c'est de l'essentialisme. Justement, quand l'essentiel se décline au quotidien, ce n'est plus de l'essentialisme. Et quand l'essentiel, qui est pour moi le corpus coranique, lui-même a commencé par essentialiser les autres en disant que ce sont des traîtres, que ce sont des pervers, des mécréants, etc., c'est-à-dire des mauvais, en gros, sans référence religieuse, cette dualité des sens se transmet à l'identique. Et nous la retrouvons aujourd'hui, je vous en donnerai de multiples exemples.
Oui, alors, la naïveté dont vous parlez, Daniel Siboni, elle s'est retrouvée au moment du printemps arabe. Beaucoup de gens ont dit à ce moment-là que l'aspiration démocratique s'universalisait, et je me souviens très bien que tous ceux qui émettaient quelque inquiétude, quelques scepticismes, ont été très vivement attaqués, notamment dans la presse, dans le journal Le Monde. Ils faisaient preuve de racisme, d'essentialisme, etc. Or, les printemps arabes, Tarek Oubrou, n'ont pas tout à fait tourné comme on pouvait l'espérer, mais c'est là qu'on en vient peut-être au cœur du débat. Il y a dans le Coran des phrases, disons, extrêmement dures avec ce qu'en effet on appelle les gens du livre. Comment faire, au fond, quand on est soi-même imam, pour surmonter cette hostilité-là? Et n'est-ce pas dans cette hostilité dont le Coran fait preuve, que s'enracine la radicalité et donc l'islamisme et la violence dont on est les témoins de manière très régulière.
Peut-être je ferai une petite introduction pour expliquer la complexité du texte coranique. D'abord, c'est un texte anarchique de point de vue épistémologique. Il n'est pas organisé ni en thématique ni en chronologie. Donc, il faut reconstruire toute la traçabilité des fragments. Donc, il y a le texte, mais il y a le contexte du texte. Ce qu'on appelle Asbabun Nuzul, les circonstances de la révélation, qui se trouvent dans un corpus parallèle. C'est-à-dire que le Coran ne se suffit pas à lui-même, il renvoie à d'autres sources, telles que la tradition du prophète, l'histoire de la révélation. Et puis, il y a ce qu'on appelle le général signifiant le particulier. Il est très connu chez les linguistes coranistes musulmans, c'est que quand on parle des gens du livre, on désigne un groupe bien ciblé, c'est-à-dire on a l'impression que c'est général, mais c'est particulier. Puisqu'il y a des versets principiels qui disent « Les sawa'an min ahlil kitab », les gens du livre ne se ressemblent pas, il y a des bons et des moins bons. Donc, à ne pas confondre le passage principiel et le passage circonstanciel. C'est-à-dire que les gens du livre désignés dans certains textes, ce sont des gens du livre qui sont hostiles.
Mais ne diriez-vous pas, et ça je m'adresse à l'un et à l'autre, que dans l'islam estime que tous les hommes sont nés musulmans, que le message du Coran leur a été transmis dès leur naissance et que ce sont les circonstances extérieures, principalement la falsification du Coran céleste par les juifs, en lui substituant la Torah, et par les chrétiens l'évangile, qui ont fait que les hommes ont eu besoin d'être redressés par le message authentique transmis par Mahomet, le sceau de la prophétie. Et dès lors, à ce moment-là, il y a une supériorité marquée du Coran sur les gens du livre, et peut-être que le radicalisme, c'est l'hypothèse que je vous soumets, la radicalité, etc., naît du contraste entre l'affirmation de cette supériorité de l'islam et la réalité actuelle qui voit la prospérité de l'Occident judéo-chrétien. Ce contraste crée frustration, ressentiment, et c'est sur cette frustration et ce ressentiment que fructifie l'islamisme aujourd'hui. Daniel Siboni.
Vous permettez, puisque monsieur cite des versets en arabe, je ne vais pas citer des versets violents, mais je vais citer des versets qui caractérisent, qui pointent, par exemple, les gens du livre. Il dit, et je vais vous citer un exemple, où il s'adresse aux musulmans. Il dit, vous êtes « Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas », vous êtes la meilleure communauté qui est sortie dans l'humanité. « Ta'umruna bil ma'ruf wa tanhuna 'anil munkar », vous dites le bien et vous éloignez du mal. « Walau amana ahli kitab », si les gens du livre croyaient, la kana khayran lahum, ça aurait été mieux pour eux. Minhum al-mu'minina, parmi eux, il y a des croyants, des gens bien. Wa aktaruhum al-fasiqun, la plupart d'entre eux sont des pervers. Un autre petit verset qui vous dit, qui précise un peu votre hypothèse sur la supériorité et l'antériorité.
L'antériorité,
du Coran.
Voilà, c'est l'antériorité.
L'antériorité du Coran. Il y a un très joli verset que j'aime beaucoup sur Abraham. Ce n'est pas du tout un verset violent. Il dit « Ya ahlul kitab, ô gens du livre, lima tuhajjuna fi Ibrahim, pourquoi vous vous disputez sur Abraham ?»« Wa ma unzilat torati wal injilu illa min ba'di » La Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui. Donc, conclusion. La Kana Ibrahima la Yahoudienne, Abraham n'était ni juif, la Nasaran, ni musulman. Kana Hanifan, c'était un homme pieux. Et là, on se dit ouf. Il ajoute musliman, musulman.
Ah oui.
Donc,
soumis,
avec
soumis.
Alors, justement.
Pas musulman, soumis.
Justement, alors
ah oui.
là on va entrer. Vous permettez, là, on va entrer dans des questions de langue. Et il faut quand même faire une petite parenthèse. Parce que. Et des prosélytes, des auteurs divers, nous disent que l'islam, c'est pas soumis. Moi, je veux bien. Islam, c'est. D'autres le traduisent par pacifié. Donc, des troupes mahométanes entrent, font irruption dans un pays pour le conquérir. c'est des gens pacifiés qui viennent apporter la paix. Et d'ailleurs, vous l'avez écrit vous-même, je crois, l'islam ne fait la guerre que pour apporter la paix.
Non, c'est pas ça.
En tout cas,
c'est
quelqu'un,
c'est pas dans
mais en tout cas, quelqu'un qui s'appelle Tarek Oubrou l'a écrit dans un texte où je l'ai relevé. Vous permettez ? Là, il y a une question de vocabulaire qui est très importante. On nous dit la charia en arabe, c'est simplement la loi. Ce qui est intéressant, c'est que la loi déclinée en arabe donne la charia qu'on connaît. On nous dit que le djihad, c'est simplement l'effort intérieur.
Non, ça, non. On le dit de moins en moins.
On le dit, justement, depuis que... alors, on dit, voilà, c'est l'effort intérieur décliné. Ça, on nous dit, je l'ai vu dans votre livre, monsieur l'imam, fatwa, c'est simplement un avis juridique. Donc, monsieur... L'écrivain
Rushdie
a payé d'une bonne part de sa vie et de sa famille un avis juridique. Autrement dit, il y a un décalage sur le vocabulaire. Quant à cette histoire de muslim, c'est très important. Il n'y a pas de notes en bas de page dans les Corans qui circulent et qui sont lues, annonnées et étudiées pour dire « muslim ici veut dire musulman ». Et muslim ici veut dire simplement soumis à Dieu.
Alors, Tarek Oubrou.
Oui, c'est le problème. Tous les musulmans ne sont pas des exégètes ni des herméneutes. Vous le savez très, très, très bien. C'est vrai, là, on est en train de parler du régime de la vérité. Est-ce que les juifs reconnaissent la prophétie de Jésus ? Est-ce que les chrétiens reconnaissent la prophétie de Mahomet ? On peut reprocher également aux autres religions.
Non, c'est des questions d'identité, pas de prophétie.
En termes de religion, la reconnaissance de la vérité. Bien sûr, le Coran se présente comme une vérité révélée qui est presque syncrétique et qui rassemble tous les messages antécédents. C'est son propre, comme le christianisme tire sa légitimité de l'Ancien Testament, le Coran tire sa légitimité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais être dans la vérité et vouloir l'imposer, ça c'est un autre problème.
Mais alors attendez, là je voudrais me référer encore une fois à l'actualité que nous vivons. Youssouf El-Qaradawi, qui était qualifié par Gilles Kepel de moufti mondial, qui est un prédicateur très célèbre des frères musulmans, dit à plusieurs reprises, c'est un des refrains de ses prêches, il ne peut pas exister de dialogue entre nous et les juifs, hormis le sabre et le fusil. Et il a parfois des propos encore plus violents, mais je ne m'étendrai pas. Et puis, dans une émission, dans un documentaire qui est passé à la télévision « Prof en territoire perdu de la République » de Georges Benayoun, le sociologue Smaïn Lahacher dit que l'antisémitisme aujourd'hui est déjà déposé dans l'espace domestique, l'antisémitisme de ces territoires perdus. Il est déposé dans la langue, une des insultes des parents à leurs enfants quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter de juifs. Toutes les familles arabes le savent, l'antisémitisme se trouve donc dans l'espace domestique, il est là, il est dans l'air que l'on respire. Alors ma question c'est, est-ce que cette hostilité est ancrée dans le Coran ou non ? Première question. Deuxième question. Que fait l'imam que vous êtes pour y répondre ?
Oui, c'est un travail théologique à établir, parce qu'il y a ce racisme qui est inadmissible. Tous les prophètes du Coran sont des juifs. Quand même, insulter les juifs parce que les juifs, c'est insulter Moïse, insulter... On a choisi ce peuple en connaissance de cause. Donc Dieu se serait trompé d'une certaine manière. Donc théologiquement parlant, c'est très problématique pour celui qui exclut l'autre parce qu'il descend d'Israël. C'est quand même problématique parce que 95% des prophètes du Coran sont des juifs. Justement, le prophète lui-même est marié avec une juive. Il lui a dit, vous êtes la fille d'un prophète et la femme d'un prophète. Donc ce racisme est inadmissible. Par contre, le régime de la vérité et de l'erreur, oui, le Coran dit qu'un certain nombre de gens du livre, ils ont adultéré le sens de la Torah puisque le prophète, quand il a appliqué la Torah, quand il s'agit de conflits entre les tribus juives, donc il se référait à la Torah pour l'appliquer. Si c'était un mensonge, il ne l'aurait pas appliqué sur les juifs. Donc une décentralisation du droit, il n'appliquait pas la charia, mais la Torah sur en respectant leur religion. Donc il peut y avoir une pluralité de vérités, donc il y a une brèche qui est ouverte. Et je pense que les musulmans doivent faire un travail en profondeur quant à leur théologie fondamentale, c'est-à-dire la théologie de l'altérité, le statut de l'autre dans l'économie de la théologie musulmane d'aujourd'hui.
Je vais vous dire que l'antisémitisme, enfin moi j'appelle ça la vindicte anti-juive, puisque l'antisémitisme c'est un mot qui date du 19e.
Oui, oui.
Donc la vindicte anti-juive et anti-chrétienne, mais surtout anti-juive, et je vous dirai pourquoi, est vraiment ancrée dans le texte. Et moi je tire mon chapeau aux musulmans de tout pays d'avoir fait avec ça, sans être des haineux qui déferlent comme ça. Ça veut dire que les gens ont envie de vivre, ont envie de calme, ont envie
peut-être
de travail.
Peut-être qu'ils ont bien compris le Coran.
Ont envie de... Sinon, s'ils s'en tiennent au texte, ce ne sont pas seulement les versets qui rapprochent les juifs des singes et des cochons, des choses comme ça, qui sont les plus virulents. Le vrai problème, à mon avis, c'est que le Coran fait défiler des épisodes bibliques, il en fait une réécriture, un rewriting, et de tous ces épisodes bibliques, c'est très important, les Juifs ne s'en sortent jamais indemnes. Ça veut dire qu'ils sont toujours condamnés. Ça veut dire que leurs grands hommes sont très bons parce qu'ils sont musulmans, Moïse, etc. Mais le peuple est toujours pervers. Et de sorte que quand le fidèle absorbe des récits bibliques coranisés, et il en tête le suc qui est très bon, mais il tête aussi le fait que les protagonistes sont des gens absolument pas recommandables. Et je voudrais, puisque je crois que vous aimez beaucoup parler de la littérature, je voudrais prendre un exemple, un épisode, parce qu'il touche à l'écriture, à la littérature. C'est l'épisode où Moïse descend, voit son peuple en pleine orgie du veau d'or. Et dans l'écriture biblique, il pique une colère, il brise les tables, etc. Et finalement, il supplie Dieu de leur pardonner. C'est important. Et le Dieu tergiverse, etc. Comme le Dieu sait l'être, ça veut dire il est hésitant, là, ça hésite. Et finalement, il est dit, bon, je leur pardonne, mais quand je me souviendrai, je me souviendrai. Or, l'argument de Moïse pour obtenir le pardon, c'est de dire, si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi du livre que tu écris. Ça veut dire une écriture qui n'intègre pas l'échec, la défaite, la déchéance, etc., c'est une écriture qui ne vaut pas la peine. Dans le Coran, le même épisode est repris, et Moïse et son Dieu sont d'accord pour dire « Non, délivre-nous de ce peuple pervers ». Autrement dit, c'est dans le récit biblique lui-même que les Juifs sont flingués régulièrement. Pourquoi pas? C'est de bonne guerre. Mais le problème, c'est que l'islam a vécu sur cette énorme victoire, entre guillemets, spirituelle, qui aujourd'hui lui revient comme une question à des braves gens, des musulmans, qui, eux, sont venus en Europe pour améliorer leur sort, pour vivre un peu de liberté, et qui se retrouvent coincés, tout comme les non-musulmans, devant cet état de fait, et surtout, j'y reviendrai, devant le fait qu'il ne faut pas en parler.
Tarek Koubrou, répondez-vous à ça.
Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, parce que j'ai l'impression que c'est une interprétation a posteriori, c'est-à-dire on lit le Coran à travers les mentalités des musulmans qu'on entend et qu'on a côtoyés. La délivrance dont il s'agit dans le verset, c'est la délivrance du peuple juif de l'emprise du pharaon.
Non.
Ce que les musulmans fêtent dans chaque Ashura, on jeûne ce jour-là parce que Dieu a sauvé Moïse et son peuple. Donc les musulmans n'ont rien compris de leur Coran. Donc ils partagent cette joie par le jeûne parce que Dieu a sauvé Moïse de l'emprise et son peuple du pharaon. Et donc il y a des épisodes dans le Coran où Dieu a soutenu ce peuple pour avoir la victoire sur ses ennemis. Il y a beaucoup de passages, on ne peut pas les citer ici, tellement, tellement nombreux. Ce n'est pas un texte racialiste, le Coran. Il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas de fils de tel ou tel ou tel, etc. L'objectif du Coran, ce n'est pas de tracer des frontières racialistes, fils d'Israël, fils d'Ismaël, parce que j'ai, à un moment donné, il dit le Coran, il évacue, il reprend les récits de la Bible, mais il évacue ce qui dérange les Arabes de l'époque, tel que le fait que Agar soit une servante. Mais le Coran ne parle pas des noms comme ça, ni de Sarah d'ailleurs, qui est la demi-sœur d'Abraham. Il ne dit pas, voilà, c'est une descendance d'inceste. La question de la filiation, la théologie par la filiation n'existe pas dans le Coran. C'est plus des principes universels. C'est pas une question contre les juifs en tant que race.
Mais Tarek Oubrou, n'y a-t-il pas une difficulté actuelle liée et je ne veux pas qu'on s'y attarde, mais on ne peut pas ne pas en parler, à l'existence de l'État d'Israël. Si l'islam se vit comme l'ultime religion, le sceau de la prophétie, c'est difficile pour nombre de musulmans de concevoir l'existence d'un État juif prospère qui serait comme un démenti à la prophétie de Mahomet. Est-ce que ça n'alimente pas précisément ce que Daniel Siboni appelle la vindicte anti-juive?
J'ai développé ça dans un article sur la vocation de la Terre Sainte. Mais ça n'a rien à voir. Un régime politique n'a rien à voir avec la vérité théologique. Ça n'a rien à voir. On est dans deux répertoires complètement distincts. La vérité transcendantale ne se vérifie pas par la victoire et la défaite politique.
Daniel Siboni.
J'allais dire, Dieu vous entende. Le problème, encore une fois, on n'est pas en train de faire de la théologie. On est en train d'étudier, d'analyser, c'est mon métier, d'analyser le rapport des gens avec leurs textes. Leurs textes pouvant être ce qu'ils ont gardé comme texture mentale de leur histoire, donc aussi de textes fondamentaux. Je crois que le problème n'est absolument pas racial. Si le Coran, moi je pense que si le Coran ne parle pas d'Agar, c'est pas parce que c'était une esclave. Pas
vous l'avez dit dans votre livre quand même.
Non, si, si. J'ai dit un peu plus. J'ai dit que s'il parle pas de Agar, c'est que
une vexation.
Il faudrait qu'il parle d'une scène absolument impossible à avaler, où Abraham et Sarah de la Bible congédient Agar et Ismaël.
Mais ça, tous les musulmans le savent dans l'exégèse.
Et dans l'exégèse et dans le texte, s'il mentionne ça, s'il mentionne qu'Abraham, le musulman, congédie Ismaël, le musulman, c'est difficile à avaler. Ce sont des contraintes textuelles. Il n'y a pas de question de race là-dedans. Il y a une question d'affect, on aime un texte et il module l'existence quotidienne. Et si vous permettez, vous avez évoqué le Proche-Orient. Le Proche-Orient, je dirais même que c'est le modèle qui, aujourd'hui, dans l'actuel, coagule toutes ces tensions internes. Je vous le montrerai puisque... Je peux prendre une minute pour ça.
Oui, allez-y.
Voilà, le Proche-Orient, et moi j'ai vécu dans un pays arabe, où il y avait, dans les pays arabes, il y avait 1 million de juifs, qui sont tous partis. Je parle du monde arabe. Et je me suis demandé pourquoi ils sont partis, parce que des fois on les a chassés, mais des fois pas du tout, notamment au Maroc. Donc, il y a toutes sortes de... Il y a eu, d'accord, le décret Crémieux, l'Algérie, etc. Mais j'ai compris qu'ils sont partis pour la raison suivante, à cause d'Israël. Mais pas au sens où on le croit. C'est pas pour aller en Israël. Ils sont partis parce que dans la perception islamique courante de l'homme de la rue et de l'homme plus nanti, voir des juifs qui sont supposés des minables, des pervers, des maudits d'Allah surtout, les voir frères d'autres qui ont plutôt la baraka et qui arrivent à se défendre et à faire exister une souveraineté, ça fait une vision schizée, c'est une vision insupportable. Et du coup, les Juifs l'aperçoivent et se tirent parce que leur présence verticale sur ce lieu devient impossible.
Tariq Oubrou.
Le premier point, c'est que ce qu'on reproche au Coran à l'égard des Juifs, on le trouve dans la Bible. Il y a des passages très sévères à l'égard du peuple juif.
C'est un livre de colère, la Bible.
Voilà. Quand même, c'est quand même une tension entre Dieu, ce peuple, etc., la malédiction, etc. Donc, à cet égard, si le Coran reprend ces passages, c'est parce qu'ils sont dans la Bible d'une certaine manière. Sans essentialiser ni généraliser, parce qu'il s'agit toujours d'un groupe bien serré et bien particulier. Il ne s'agit pas de généraliser les choses. La question de la racialisation de l'approche.
Pourquoi vous parlez toujours de race ? Je n'ai pas compris.
Je vais vous le montrer, parce que vous croyez qu'Ismaïl, c'est le père des musulmans. Donc les musulmans ne sont pas affectés parce qu'ils ne sont pas une descendante d'Ismaïl, qu'ils soient chassés ou pas chassés. Moi, je ne suis pas un descendant d'Ismaïl. D'abord, Ismaïl, ce n'est pas un arabe. Ishmaël, c'est un mot déjà qui sonne hébreu. D'abord, son père, Abraham, n'est pas arabe. Agar, c'est une copte. Donc, dans votre esprit, vous pensez que les musulmans, c'est une race, c'est une ethnie. Ils descendent, ils vont être affectés parce que le Coran n'a pas parlé de cette expulsion, parce qu'il a expulsé leur père. Mais Abraham, Ismaël ne sont pas les pères de tous les Arabes, parce que les Arabes existaient avant Ismaël, et tous les musulmans ne sont pas arabes. Ils constituent 22% des musulmans du monde.
Alors, je voudrais aborder une autre question maintenant, c'est celle du statut des femmes dans le monde arabo-musulman, mais aussi dans le Coran, puisque Fethi Ben Slama, dans sa déclaration d'insoumission à l'usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas, dit ceci: l'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. Si violence, si il y a, il dit, cela vient de l'oppression des femmes. Or, et là, je cite Adonis, le poète syrien Adonis, dans un livre qui va sortir aux éditions du Seuil, « Violence et Islam », lui-même se réfère à un célèbre verset du Coran: « Les hommes sont vos prés, allez dans vos prés comme bon vous semble. » Les femmes, pardon, sont vos prés, allez dans vos prés comme bon vous semble. On peut traduire aussi « Les femmes sont pour vous comme champs de labour, allez à votre champ comme vous voulez. » Si elles montrent une indocilité, reléguez-les dans les chambres à part et battez-les. Donc, tout cela existe dans le Coran même. Cela explique peut-être le marasme actuel du monde arabo-musulman. Et y a-t-il quelque chose à faire pour remédier à cette situation faite aux femmes dont tout le monde pâtit, aussi bien les hommes que les femmes ?
D'abord, c'est ce genre de texte, on le trouve également dans d'autres traditions. Le Coran n'a pas le monopole de ces passages-là. Je voudrais donner ici une clé de lecture pour pouvoir comprendre un texte aussi contradictoire parfois en apparence du texte coranique. Il y a deux égalités. Il y a l'égalité ontologique, il y a l'égalité juridique. Lorsque le Coran parle de la naissance d'Adam, il ne reprend pas le récit de la Bible. Il n'y a pas Adam, puis Ève, et puis Ève qui tente Adam pour l'égarer. Les deux furent créés d'une même nature. Les deux furent les deux pécheurs, les deux se repentirent, les deux furent pardonnés. L'histoire s'arrête de manière laconique à ce niveau-là. Donc il y a une égalité ontologique, spirituelle et morale. Ça, c'est le niveau théologique et métaphysique de l'être. Mais au niveau du droit, le droit, il compose avec une réalité. On oublie que le Coran, là, on tombe dans l'anachronisme. Le Coran parle à un peuple bien particulier où il négocie le principe avec une réalité. Le principe d'égalité, c'est un principe, mais le droit, il traduit l'égalité dans un moment anthropologique particulier. L'erreur des musulmans aujourd'hui, c'est au lieu de reproduire le principe, et de reproduire l'effet juridique de ce principe. Moi, ce qui va m'intéresser en tant que théologien et éthicien, ce n'est pas de reproduire ce que le Coran a appliqué comme égalité dans des limites anthropologiques de l'époque. Ça ne pourrait être autrement, parce que quand même, le Coran, il ne parle pas aux Français au XXIe siècle. Donc il y a une partie circonstancielle du message. Ce n'est pas parce que le texte est sacré qu'il faudrait reproduire tout le contenu de ce texte.
Daniel Simonnier.
Je crois qu'on manque le problème de la radicalisation si on décide que chaque énoncé un petit peu problématique, or la plupart le sont, est en fait connoté de circonstances particulières, spécifiques, etc. Cette malédiction sur les Juifs, certains, y compris d'ailleurs M. Obrou dans son livre, la ramène aux tribus juives de Médine, qui ne se seraient pas bien conduites.
Ce n'est pas la malédiction, c'est le conflit. C'est, ça,
oui.
c'est, je parle
oui,
du conflit,
ce n'est
pas la malédiction.
Il y a deux parties d'ailleurs dans le Coran, la partie mécoise, la partie médinoise.
Oui,
c'est
mais
ça.
Je pense, moi, que cette subdivision n'est pas décisive. La vraie division, c'est entre les gens qui ont besoin d'exprimer la vindicte et les gens qui n'ont pas besoin d'exprimer la vindicte, parce qu'ils sont occupés à vivre. Donc, cette malédiction sur les Juifs qui est tissée dans le texte coranique et qui se transmet comme telle, et je l'ai vu de mes yeux à Marrakech où j'ai grandi et j'ai eu des récits. Je veux dire, j'ai quand même vu des musulmans dire « ce type, c'était un juif, hachak ». Hachak, ça veut dire « sauf votre respect ».
Les Juifs, ils disent la même chose aux musulmans.
Si ils le disent sous souveraineté musulmane, je peux vous dire qu'ils ne feront pas 10 pas en sécurité. Les juifs, bien sûr que ça existe. Et même je peux vous dire qu'entre juifs, on se moquait des musulmans. Mais je vous parle du discours dominant. Donc, je reprends. Dire que cette malédiction sur les Juifs serait due à une circonstance, mais ça mettrait le Coran dans une position d'injustice profonde. Maudit, ça se veut un texte éternel. Maudire pour l'éternité les descendants des gens qui ne se sont pas tout à fait bien conduits avec le prophète, mais c'est de la folie.
Oui, mais alors, d'où ma question générale à
ça,
tous
c'est
deux.
C'est la lecture essentialiste, justement, du Coran qui fait le littéralisme et la violence.
Le Coran est essentiel, et encore une fois, quand on l'écarte en disant « il ne faut pas faire d'essentialisme », alors il me semble qu'on manque justement l'essentiel. Je veux juste faire une remarque sur la violence biblique. Il se trouve que je connais bien la Bible. Je ne dirais pas comme vous que c'est un livre de colère. Il contient de la colère, il contient des passages bons, etc. Je dirais, autant la Bible tape sur les siens, autant le Coran tape sur les autres.
Oui. Donc, non, mais il tape sur les musulmans.
Donc, quant à la violence guerrière, il y a de la violence guerrière dans la Bible qui concerne un territoire grand comme la Sarthe ou les Deux-Sèvres. Et la violence du djihad, de la guerre sainte, de la guerre pour Dieu dans le Coran, il concerne tous les autres,
oui,
c'est-à-dire le monde.
Mais j'en reviens à la situation où nous sommes, c'est-à-dire la France, par exemple. Comment peut-on faire pour réussir l'intégration en France d'une population musulmane de plus en plus nombreuse ? Gilles Kepel, dans son livre 93, nous rappelle la véritable origine des émeutes de 2005. Elles ont eu pour point de départ, c'est vrai, la mort accidentelle par électrocution des deux adolescents de Clichy-sous-Bois, Zied d'origine tunisienne, Bouna d'origine mauritanienne. Ils étaient réfugiés dans un transformateur électrique pour échapper à une patrouille de police qui recherchait les auteurs d'un cambriolage. La police s'étant rendu aux yeux de certains habitants coupables de non-assistance à personne en danger, il y a eu des émeutes tout de suite à Clichy-sous-Bois. Mais elles étaient en voie d'apaisement quand une grenade lacrymogène tirée par les forces de l'ordre est tombée au seuil d'une mosquée aux portes ouvertes. On a parlé de gazage de la mosquée, c'était à Montfermeil, et c'est là que les émeutes se sont répandues dans toute la France. Donc elles ont eu déjà cette origine, disons, religieuse, si je puis dire. Donc, que faire pour que tout cela ne débouche pas sur le conflit ouvert ? Est-ce que il revient à l'islam de s'adapter, de revenir, par exemple, sur l'interdiction de changer de religion, qui reste, semble-t-il, au cœur du discours musulman, ou bien revient-il à l'État de nouer avec l'islam une série d'accommodements raisonnables, comme on dit au Québec. Tarek Oubrou.
Ben écoutez, vous savez, la tâche que j'ai personnellement, c'est d'être entre les convictions intellectuelles et la parole responsable, surtout à un moment charnière de notre histoire française. La crise est devenue la règle. Nous sommes dans un moment d'irrationnel où la peur est devenue vraiment le paradigme qui structure presque la pensée. On a du mal à admettre le renversement de l'histoire. On pensait que l'histoire était linéaire. On découvre que ce n'est pas le cas. Donc le passé nous rattrape. Et donc comment faire société? Donc entre les convictions intellectuelles et la parole, entre l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité, à un moment donné, il ne faut pas trop jeter de l'huile sur le feu. Et je pense que le discours essentialiste qui assigne les gens, enfin, votre Coran, il dit ça, donc vous ne pouvez être que ça, et qu'il n'y a pas d'une herméneutique, qu'il n'y a pas une intelligence, il n'y a pas, le texte ne dégage pas une pensée universaliste, ça renforce justement et ça légitime ce type de comportement. Maintenant, il faut un travail en fondamental, en profondeur, une revisite totale de la pensée de l'islam en général. Mais nous sommes dans la République, il y a un droit, il y a une culture. Moi-même, je travaille sur la théologie de la culturation, c'est-à-dire que l'islam ne doit pas se négocier en termes de revendication de droits, mais de négociation dans l'intégration dans la civilisation et dans l'histoire. L'islam n'est pas une civilisation. Elle était une civilisation à un moment donné. Le musulman français, il a sa religion musulmane, sa civilisation, elle est occidentale, et donc on est dans deux répertoires différents. L'islam est une religion et spiritualité qui prend la forme de son contexte et de son histoire. L'histoire des musulmans en Occident, c'est l'histoire de l'Occident, la civilisation occidentale. Nous devons faire un travail théologien, parce que je suis un religieux, donc vous parlez à un religieux qui doit faire ce travail-là, justement de donner un produit de réconciliation de ces musulmans avec leur identité, double identité musulmane et française.
Oui, alors justement, Tarek Oubrou, alors je pose la question quand même très précise. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, pour organiser le culte musulman, a demandé une reconnaissance de la liberté religieuse sans restriction, y compris la liberté de changer de religion, conformément à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et à la Convention européenne, ratifiée par la France, les musulmans, notamment l'UOIF, ont refusé cette clause et le ministre laïc s'est exécuté en retirant l'article sur le changement de religion.
Alors, la République n'a pas à reculer devant ce type de comportement. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, dit le Coran. Le prophète lui-même, lorsqu'un musulman il est venu dans Sahih al-Bukhari lui dire « je veux renoncer à mon allégeance à la religion », lui a permis de quitter l'islam et de regagner ça. Quand même, la République, il doit être fidèle à ses valeurs.
Bon, mais alors là, c'est très clair. Daniel Siboni.
Si on en vient, en effet, à la République, je crois que le remède à tout ce maelstrom, à tout ce marasme, ne peut être qu'une fermeté du tiers, qui est la République, qui est la France. Une fermeté que, malheureusement, elle n'a pas. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu des élèves juifs qui étaient attaqués dans les collèges qui pourtant mettaient une plaque commémorative des enfants juifs qui avaient été déportés, conseillaient aux parents de désinscrire leur enfant. Il aurait fallu mettre des flics dans les couloirs pour imposer la protection de ces enfants. Comme ça n'a pas été fait, les juifs, eux, se sont débrouillés et ils se débrouillent toujours. Ils ont fait des écoles privées, etc. Mais ce sont les profs qui auraient pu être défendus. Et là, les profs ne sont pas défendus et ne l'ont pas été. De sorte que lorsqu'un élève met en acte le verset coranique que je vous ai cité devant une prof qui, par exemple, veut faire une initiation aux trois monothéismes. Le premier, c'est le judaïsme. Le deuxième, c'est l'euc. Et un doigt se lève. « Madame, vous avez tout faux. » Le premier, c'est l'islam. Alors elle dit, bon, je ne voulais pas dire la qualité, la beauté, non, je dis la chronologie. Le premier, c'est le judaïsme. Le deuxième, et là, c'est un tiers de la classe qui lève la main, et la prof, elle lâche, elle retire, comme votre parlementaire, qui retire.
Chevènement, ce qui est quand même le plus laïc, le plus républicain.
Voilà,
c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque.
Le ministre de l'Intérieur. Et vous savez, j'ai un ami qui a écrit... Et au ministre de l'Intérieur, quand c'était Sarkozy, en lui demandant « Est-ce qu'il est normal qu'on enseigne dans les écoles coraniques en France des versets et des textes coraniques qui sont haineux pour les autres ?» La réponse qu'il m'a passée est un petit bijou d'hypocrisie. C'est « Ce sont des textes religieux et au nom de la laïcité, on n'a pas à s'en mêler. » Ça veut dire, si quelqu'un vous traite de pervers, vous pouvez l'assigner parce que c'est une insulte, etc. Mais s'il vous dit c'est le texte qui vous traite de pervers, vous n'avez rien à dire.
Mais Daniel Simonnier, il ne revient pas non plus à la République de censurer, d'expurger le Coran. C'est pas comme
il
ça.
Il s'agit pas de, justement là-dessus. J'ai quelques petites suggestions. Ni la République ni les musulmans ne sont habilités à expurger le Coran. Personne ne changera une ligne du Coran. C'est à partir de cette base qu'il y a des choses à trouver. Et si il fallait faire un travail que j'appellerais pas théologique, que j'appellerais identitaire, c'est pour aider les uns et les autres, et notamment cette identité quand elle prend des formes de flambée totale chez des jeunes. Il ne faut pas oublier que les jeunes exprime le refoulé des moins jeunes. C'est-à-dire, les jeunes, c'est pas des monstres, ils inventent pas ce qu'ils disent, ils expriment ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont appris. Donc, si on veut faire un travail identitaire, non pas en vue du vivre ensemble, parce que moi je pense qu'il y a toujours du vivre ensemble, et il ne faut pas s'en prévaloir comme d'une manière pour en réalité faire taire ceux qui voudraient en parler un peu autrement, de façon critique. Mais si on veut faire un travail de cet ordre, monsieur l'imam, expliquez à vos fidèles que les beautés qui se trouvent dans le Coran se trouve aussi chez les autres, chez les juifs et les chrétiens. Je ne vous dis pas de leur dire que ça a été pris là, mais de leur dire que ça existe ailleurs. Expliquez-leur que les tares que le Coran trouve chez les juifs et les chrétiens existent aussi chez les musulmans.
Mais c'est le discours que je véhicule matin, c'est évident.
Et
c'est
puis,
les musulmans ne sont pas constitués d'une
licence. Vous permettez que je termine et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je présentais islamophobie, culpabilité dans une ville de province, c'était un sociologue musulman qui modérait le débat. Et comme j'ai parlé des malédictions, etc., j'avais dit, ce qui serait pas mal, c'est que les musulmans religieux introduisent dans leur rituel une petite prière de 30 secondes où ils demandent à Allah d'arrêter de maudire les juifs et les chrétiens. Eh bien, ce qui s'est passé est très intéressant. Le sociologue musulman a écrit un texte en arabe de 3 lignes en suppliant Allah d'arrêter sa malédiction sur les juifs et les musulmans présents dans la salle le temps de cette réunion.
Alors,
j'ai trouvé que c'était joli.
Tariq Oubrou, oui. Que faut-il faire pour apaiser les tensions? Quel peut être aujourd'hui le rôle d'un imam? En conclusion.
Ben écoutez, le rôle d'un imam, c'est d'éclairer ses corps religionnaires sur la complexité de l'être humain et que l'islam est une religion qui porte un message. D'abord, l'islam, c'est la paix, en principe, une paix intérieure déjà. Parce que cette violence qu'on voit, c'est parce qu'il y a une souffrance peut-être intérieure qui n'est pas soignée d'une certaine manière. Il y a de l'identitaire, etc. Donc il y a un travail, je dirais, je reviens à la théologie parce que M. Simonnier, il est dans l'identitaire. Moi, je suis dans la métaphysique, la théologie, l'herméneutique et la mystique. Donc je suis dans le religieux dans le sens propre du terme. Et je pense qu'on peut guérir la religion par la religion. Et par une parole responsable, et de ne pas assigner l'autre vraiment à un code génétique inflexible. Les musulmans sont comme le reste de leurs concitoyens. Ils ne consultent pas le Coran chaque 4 matins pour vivre. Ils sont travaillés par la vie au quotidien. Tous les imams ne sont pas des fêlés. Il y a de l'intelligence qui se développe dans cette communauté. Et je pense que je reste, moi, personnellement, optimiste.
Alors, quand même, une dernière question. Je la formulerai de deux façons. D'abord, vous sentez-vous isolé dans votre communauté parmi les imams? Et je crois avoir lu que, au lendemain des attentats commis par Mohamed Merah, vous êtes beaucoup dépensé pour, en quelque sorte, calmer vos jeunes qui avaient tendance à s'identifier, notamment après sa mort sous les balles de la police avec l'assassin. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous ne voudrez pas souvent, étant donné vos positions extrêmement modérées, en porte-à-faux, d'abord avec une partie du texte, et ensuite avec une partie de votre communauté?
Non, je suis conforme à l'esprit des textes. Je ne peux pas trahir ma religion. Je suis au service de ma religion. C'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça que je la vis, que je la pense, et je la véhicule. Donc, il ne faut pas assigner le mal au Coran. Ce serait très dangereux de penser cette chose.
Oui, un mot.
Moi, je trouve que, avec ce que vous dites, ça va tout à fait dans le sens de la diversité. Ça veut dire qu'il existerait donc des imams qui veulent montrer que les messages sont en fait communs, même si ce n'est pas tout à fait le même Dieu, même si les gens sont maltraités dans l'un des textes, ce n'est pas grave. Mais dire tout de même que l'islam, c'est la paix, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un peu trop loin? Il ne faut pas oublier que l'islam s'est constitué par une série de djihad successifs où des pays ont été islamisés par la force. Certes, une fois qu'ils sont islamisés, ils entrent dans la paix, mais il ne faut pas non plus cracher sur l'histoire. Et un dernier point, je reviens au point essentiel, le problème n'est pas l'islam. Le problème, c'est l'occidental coupable et incapable d'appliquer sa loi, sa dignité, qui ferait du bien non seulement à lui, mais aux musulmans.
Moi, j'interprète votre parole comme une insulte à l'islam et aux musulmans. C'est-à-dire que l'islam et les musulmans ne sont pas capables de se civiliser par eux-mêmes.
Bon, très bien. Écoutez, nous terminerons sur le constat de cette divergence. Et je renvoie à vos livres. Tarek Oubrou, vous avez publié « Profession imam » aux éditions Albin Michel. Daniel Siboni, deux livres. Islam, phobie, culpabilité et le grand malentendu, Islam, Israël, Occident. Les deux livres sont publiés chez Odile Jacob.
Permettez, comme je suis invité une fois tous les 30 ans dans votre émission, est-ce que je peux signaler mon nouveau livre?
Vous allez publier Question d'être entre Bible et Heidegger, toujours aux éditions Odile Jacob.
Merci.
La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La vie et l'œuvre d'Isaac Babel. Mes invités seront Adrien Le Bihan et Pierre Pachet. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jean-Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. Volkswagen, puissance, arrogance, pénitence, avec Hélène Miard de la Croix.